Bonjour, je suis Céline et bienvenue dans le deuxième épisode de cette nouvelle série de L'Esprit Financier, le podcast de Crélan où nous vous emmenons un peu plus loin dans le monde de l'investissement. Vous n'avez pas besoin d'une fortune pour commencer à investir. En fait, commencer intelligemment avec un petit montant permet de constituer un portefeuille solide à long terme. Dans cet épisode de L'Esprit Financier, vous découvrirez comment faire de grands pas avec des ressources limitées. Comment commencer? À quoi faut-il prêter attention? Et comment rester motivé lorsque les montants semblent faibles? Nous en discutons aujourd'hui avec Younes Lemti, expert en investissement chez Crélan, et Alain Laridon, agent bancaire de Crélan. Alain, Younes, bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci.
Démarrons avec l'idée, Younes, que investir, c'est réservé seulement aux gens avec un gros capital. Est-ce correct?
Alors, non. Pourquoi? Parce que c'est réservé à tout le monde, déjà. En fait, c'est vrai qu'on a cette croyance de se dire qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour investir, parce que déjà, il ne faut pas mettre tout son argent dans le même... Enfin, tous ses œufs dans le même panier. Mmh. Et donc, ça voudrait dire qu'il faut avoir plusieurs œufs. mais à côté de ça...
c'est ça.
Voilà. Mais à côté de ça, on peut très bien reconsidérer les investissements selon un autre angle. En fait, ce qu'on fait quand on investit, c'est qu'on prend un capital et qu'on le met sur un support d'investissement et puis qu'on attend. Mmh. On attend que c'est, la mise initiale qu'on a mise soit plus grande pour après faire un bénéfice. Voilà, c'est un peu ça le but d'investissement. Et donc, vous l'avez très bien compris qu'un des paramètres essentiels dans cette équation, c'est vraiment le temps. Et donc, ici, quand on investit, il faut plutôt avoir une vision sur notre temps d'investissement que sur le montant qu'on peut investir. Mmh. Donc, commencer avec des petits montants pendant longtemps, c'est la même chose que... C'est même mieux, mais on va dire qu'au niveau quantitatif, c'est la même chose qu'investir un gros montant. Mmh. Et donc, il ne faut pas forcément de gros montants pour commencer à investir.
Et on ne sait pas faire d'omelette sans casser les œufs, c'est ça?
Exactement.
Mais en tout cas, il faut commencer très tôt.
Oui.
À partir de quand, comment et pourquoi?
Oui, alors il y a une expression en anglais, ASAP, as soon as possible. Et en fait, c'est vraiment cette expression qui va un peu caractériser l'avantage qu'on peut prendre sur l'investissement et sur le temps d'investir. Moi, je dirais le plus tôt possible. Vous l'avez très bien compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, au plus tôt on investit, au plus tôt on a un horizon d'investissement qui peut être long devant nous. Vous imaginez qu'une personne ayant 20 ans, qui vient de commencer à travailler, a vraiment un horizon très long d'investissement. Pourquoi? Parce que s'il met aujourd'hui une petite somme d'argent qui peut se séparer, imaginons qu'il sort avec ses... qu'il a travaillé pendant l'été, qu'il a une petite somme d'argent, et au lieu de sortir avec ses copains et boire des verres en boîte de nuit, il pourrait très bien une petite partie de cet argent le mettre de côté et le laisser dormir pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, le résultat qu'on aurait été beaucoup plus impacté par le temps de sommeil, si on peut dire ça comme ça, ou d'investissement, entre guillemets, vous ne le voyez pas forcément ici à l'audio, mais je mets des guillemets, le temps de sommeil, que le montant vraiment qui a été investi. Ça aurait été 20 euros ou 200 euros, ça n'aurait pas vraiment beaucoup d'impact sur l'évolution sur 20 ans. Donc c'est ici le facteur principal, je pense que c'est le temps. Si on n'a pas de gros montants et qu'on a beaucoup de temps devant nous, ça veut dire qu'il faut commencer à investir.
C'est question de faire travailler le temps.
Exactement, et le faire travailler pour nous ou pour notre capital, forcément.
Alors, avant de commencer, quelles sont les règles à respecter? De quoi tenir compte?
Alors, il y a des règles, on dit qu'il y a des règles de base à respecter et qui sont très bien singularisées, en tout cas quand vous allez en agence, parce qu'on appelle un profil d'investissement qu'on expliquera peut-être ou qu'on détaillera peut-être un peu plus tard. Mais ici, pour quelles sont les règles de base à respecter, c'est déjà premièrement de peut-être investir une partie de l'argent qu'on a pas besoin immédiatement. Il faut pas investir l'argent que vous avez besoin pour payer une facture imminente, par exemple. Si vous savez que vous avez des impôts de X milliers d'euros et que vous avez seulement X milliers d'euros de côté sur votre compte, forcément, gardez-les pour payer vos impôts. Ne faites pas de crédit pour aller payer vos impôts, parce que dans le crédit, vous payez en fait cette utilisation du temps.
Il faut connaître ses priorités.
Exactement. C'est ça le point. Il faut connaître ses priorités. Ensuite, deuxièmement, une règle qui est quand même assez est importante, comme je vous l'ai dit, c'est de profiter du temps et de profiter de cette régularité qu'on a dans le temps. Vous voyez, et en fonction de ce temps qu'on a, bah, adopter un peu son attitude d'investisseur. Ça veut dire savoir un peu quel risque on prend en fonction du temps qu'on a. Si on a 20 ans devant nous, ben voilà, vous vous rendez bien compte qu'on peut peut-être prendre un peu plus de risques parce que on a des moments qui voilà vont permettre au risque de s'atténuer, ou bien ben, d'affirmer certaines convictions. Imaginons que pour que la technologie d'hologramme puisse vraiment faire apparition dans le monde de tous les jours, ben, ça prend un certain temps. Si j'ai 70 ans ou 60 ans, je suis à la retraite, ben voilà, c'est peut-être pas une super idée d'investir dans des convictions qui peuvent apparaître dans 20 ans sur le marché. Et donc, c'est vraiment, il faut adopter un peu le temps qu'on a devant nous.
Ouais. Ça, donc, c'est une règle. Il faut avoir un plan en tête, savoir ce qu'on veut réaliser et à quel horizon.
Exactement, c'est un très bon résumé.
Maintenant, Younes dit, avec des petits montants, on s'est très bien démarré. Alain, toi qui es là dans le concret tous les jours, quel est un bon montant? Avec combien d'argent est-ce qu'on peut démarrer?
Alors, ça va vraiment dépendre de chaque investisseur, chacun en fonction de ses moyens. Et donc, ce qui sera primordial, c'est de faire cette analyse de ses propres flux financiers. Hein, donc, de vraiment savoir ce qu'on a besoin comme montant pour
la vie
couvrir les frais fixes, hein, les frais du quotidien. Savoir aussi quel montant d'épargne de précaution il faut garder. Et après ça, on peut déterminer justement un montant à investir. Mais de nouveau, en me posant la question de savoir quel montant, ben, on doit voir le contexte. Est-ce que c'est des grands-parents qui veulent mettre de l'argent de côté pour leur petit-fils, leur petite-fille qui vient de naître? Là, on a cette notion de temps. Et ils ne vont peut-être pas allouer des budgets colossaux, mais c'est déjà ce que Younes évoquait. On a du temps devant soi et on y va. On va sur les marchés puisqu'ils ont tant de choses à offrir. À l'autre bout du raisonnement, certains auront de grosses capacités d'épargne parce que ils ont un train de vie plus important, ils ont moins de charges à certains moments de leur vie. Mais ce qui sera important, c'est effectivement si on lisse l'entrée dans les marchés, eh bien on achètera à différentes phases du cycle et donc on aura un résultat, un coût moyen d'achat de la valeur financière qu'on va acheter, eh bien qui aura diminué l'aspect des fluctuations de marché. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, je n'ai pas spécialement répondu à la question, je n'ai pas donné facilement de montant, mais ça, chaque cas est différent. Et là, nous, on a les questions à poser à l'investisseur pour faire cette analyse de ses flux financiers.
Oui. Et on a aussi le choix, soit on commence avec un grand montant fixe, soit on verse des petites mensualités et on construit son portefeuille au fur et à mesure. Et il y a les deux options, j'imagine, Younes.
Oui, alors, vous savez qu'un deux options, c'est qu'il y a souvent trois choix. Il y a l'option A, l'option B, et puis il y a l'option C qui est la constitution des deux choix. En fait, vraiment, l'attitude la plus stratégique ici, quand on a un gros montant, c'est déjà de peut-être pas tout investir initialement d'un coup. Même ce gros montant, on pourrait le répartir sur un horizon, par exemple, de 3, 6, 12 mois, en fonction de l'importance du montant. Et ensuite, quand ce montant a été investi, mais comme a dit Alain, c'est qu'il faut déterminer sa capacité d'épargne, en fait. Et dans cette capacité d'épargne, eh ben là, commencer chaque mois à avoir une discipline, une rigueur d'investissement pendant toute la durée de la détention de ces investissements initiaux. On va dire que c'est plus ou moins ça. Et donc là, vous l'avez compris, on parle beaucoup de diversification aussi dans le monde de l'investissement, mais on entend souvent ce terme diversification en diversifiant sur les produits. Mais la diversification, ça peut être aussi sur le temps. On peut diversifier les points d'entrée, comme expliquait Alain, sur les marchés. Et donc ici, si on a un gros montant initial, moi je dirais, de manière assez raisonnée, de répartir ce gros montant sur une durée à laquelle vous vous êtes mis d'accord, pour pas non plus attendre trop longtemps pour l'investir. Et à côté de ça, ensuite, continuer cette bonne habitude de développer une capacité d'épargne et de l'investir. Et au plus notre revenu augmente, au plus forcément on a une capacité d'épargne qui augmente, à charge toute chose restante égale par ailleurs, bien sûr, donc à charge équivalente, à ce moment-là, profiter de ce gain qu'on a sur l'épargne pour continuer à investir, donc mettre son l'argent au travail sur des durées déterminées.
Ouais. Et des investissements mensuels ou une bonne répartition dans le temps, ça permet peut-être aussi d'éviter des émotions trop élevées ou impulsives, décisions impulsives aussi.
Oui, en effet. Et puis, ça donne une certaine discipline et une rigueur. Et vous savez, le premier élément qui peut atténuer les émotions, mais c'est vraiment cette discipline. Hein. C'est comme un sportif. Un sportif, s'il veut arriver au bout de son objectif, ben forcément, il doit se lever tous les matins à une certaine heure et accomplir ses entraînements. Mais c'est un peu comme ça aussi, ici, dans l'investissement. Il y a différentes périodes dans la vie, mais néanmoins, si on veut vraiment arriver à l'objectif, il faut avoir cette rigueur et cette discipline. Et le fait de programmer ça, d'automatiser, encore entre guillemets, de programmer ça avec son agent, ben ça permet d'avoir cette discipline naturellement, sans donner un effort particulier supplémentaire.
Avec un gros budget, on a peut-être plus d'options. Si on veut investir avec un petit budget, Alain, j'imagine qu'une allocation équilibrée est vraiment clé.
Alors oui, et le mot équilibré n'aura pas le même sens pour chacun d'entre nous. Et donc, on repart du profil d'investisseur, mais quel que soit le montant petit ou plus important et l'investissement peut-être en une fois, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir une base de portefeuille, hein, un corps de portefeuille. Et ça, on va utiliser certainement des produits financiers à faible volatilité. Hein, on peut citer des obligations, éventuellement même quand les taux sont plus élevés, une base de compte à terme, puisque ça ne va pas fluctuer en fonction des éléments de marché.
Peut-on dire que c'est sans risque ?
Alors, non, je n'irai pas jusque-là, parce qu'effectivement, et de nouveau, dans les obligations que j'ai citées, vous avez des obligations à plus haut risque, à moindre risque. Hein, donc tout ça, nous pilotons cela en fonction du profil d'investisseur pour aller chercher effectivement peut-être alors des obligations moins sujettes aux fluctuations des taux d'intérêt. Mais une fois qu'on a constitué cette base de portefeuille, eh bien, il est important peut-être alors d'aller chercher des pointes et en satellite du corps du portefeuille, mais des pointes un peu plus dynamiques. Et surtout, si on a du temps, surtout si on n'investit qu'une partie des avoirs de l'investisseur. Et ici, j'ai parlé d'obligations, on peut parler d'une partie plus dynamique en actions. Une bonne manière de le faire, parce que si on veut le faire soi-même et aller chercher des actions sur les marchés, bah, il faut se documenter, il faut les suivre. Nous, on a l'habitude de travailler au travers de fonds d'investissement. Et donc, ce n'est jamais rien d'autre qu'un panier de valeurs, actions, obligations, si on est sur un fonds mixte, par exemple. Et là, on délègue la gestion à un gestionnaire en fonction d'une stratégie. Et ça, c'est important pour nous dans la construction du portefeuille, dans la proposition qu'on va faire au client d'investir en fonction du montant, évidemment, plus de lignes, chaque ligne étant un fonds différent, mettant en exergue ces différentes stratégies, eh bien, ça nous permet de constituer justement ce portefeuille équilibré que vous citiez, et tout en disant qu'effectivement, l'équilibre pour certains sera plus défensif et l'équilibre sera peut-être un peu plus dynamique pour d'autres. Mais ça, c'est vraiment le temps qu'on va passer avec l'investisseur pour déterminer ce qui va lui convenir.
Et grâce au caractère plutôt stable de ces fonds d'investissement, c'est peut-être un bon choix pour les débutants.
Clairement, c'est vrai que, surtout si on a un petit budget, on ne sait pas diversifier autant qu'au travers d'un fonds. Et même dans les fonds, on a certains fonds qui sont très concentrés, une cinquantaine de valeurs, par exemple. Mais ça, c'est notre connaissance de chacun des produits financiers qu'on met en face ou dans la proposition, qu'on pourra évoquer le pourquoi de la présence de tel fonds ou de tel autre, et pour pouvoir justement diversifier suffisamment le portefeuille de l'investisseur.
Oui. Là aussi, un bon choix est important. Et si l'agent Crélan est là pour vous, pourquoi pas le consulter.
Oui, oui.
C'est ça. À côté des fonds, il y a aussi des dividendes, des coupons, tout genre d'actifs. Younes, qu'est-ce qu'il en est? Quand est-ce qu'il faut réinvestir? Est-ce qu'il faut garder ce qu'on a gagné? Que faire?
Oui, alors si vous me permettez, je vais en revenir quand même à la base, à la mathématique. Et avant tout, ces calculs de rendement, ben, c'est juste une formule mathématique où on va appliquer le temps étant un exposant et le rendement étant un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, soit il peut venir en accumulation, ça veut dire venir accumuler la somme et à chaque fois avoir une somme plus élevée. Au début, on investit 1000, on a un rendement de 10, ça devient 1010, exposant le nombre de temps. Ben voilà, si vous avez fait un peu de mathématiques, vous rendez bien compte que c'est une fonction hyperbolique et donc ça va monter très vite si vous accumulez. Par contre, il y a d'autres objectifs. Il n'y a pas un objectif idéal, hein, ça dépend de chacun. Il y en a qui ont un objectif de croissance de leur capital, d'autres qui veulent avoir de l'argent de leur, de leur investissement. Voilà, ça dépend vraiment de l'objectif. Mais ici, il y a un autre élément, ce serait par exemple de prendre à chaque fois le gain qui a été réalisé et de le consommer. Ben, à ce moment-là, vous vous rendez bien compte qu'en fait, la somme que vous avez investie, elle n'a pas vraiment bougé. Voilà, c'est
comme ça, on joue avec de l'argent qu'on n'avait pas auparavant. C'est un peu ça.
Voilà, c'est un peu ça. Ici, idéalement, la position la plus idéale, si on veut vraiment faire croître et profiter de l'accroissement par ce phénomène mathématique naturel, hein, de la formule de rendement, ben en fait, le mieux, c'est d'accumuler à chaque fois un peu plus. Et comme je vous avais dit, de développer une capacité d'épargne à chaque fois plus grande et d'augmenter à chaque fois ses investissements. À ce moment-là, ben, il est clair que le résultat final sera beaucoup plus grand, de manière exponentielle, hein, c'est le terme, que si vous avez à chaque fois pris votre gain.
Alain, quand on débute, quels sont les pièges à éviter ?
Alors, on a déjà parlé du premier piège, c'est celui d'investir de l'argent dont on pourrait avoir besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de crucial, parce qu'effectivement, comme les marchés sont faits de fluctuations, le pire ennui serait de devoir sortir de nos positions à un moment qui n'est pas trop approprié. Alors, ce qui est important aussi, c'est de garder cette stratégie de long terme qu'on a déterminée au départ, parce qu'il est très important d'être dans les marchés. Parce qu'en fait, les marchés vont avoir des coups d'accélérateur et qu'on n'a peut-être pas spécialement prévu. Et surtout, peut-être quand on a eu des craintes parce qu'on a entendu dans la presse qu'il y avait tel ou tel événement qui pouvait intervenir, bien, les marchés vont peut-être s'en faire une raison. Et comme les marchés anticipent ce qui peut se passer dans l'économie, eh bien, on ne connaît pas toujours bien les coups d'accélérateur qu'on va avoir. Donc, ce qui est important, c'est le temps dans le marché, plutôt d'essayer d'être le plus intelligent et de se dire qu'on va pouvoir rentrer, timer le marché, hein, de pouvoir rentrer dans le marché au bon moment. Ouais. Très peu sont capables d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Et de nouveau, ici, je l'évoquais un peu plus tôt dans mon intervention, on parle de fonds d'investissement, c'est au gestionnaire à rentrer, sortir des valeurs dans lesquelles il est. Quand on est dans un fonds, eh bien, laissons-le travailler, laissons-le faire et n'essayons pas d'être plus intelligent que le marché. Et donc, cette notion de long terme est vraiment cruciale, parce qu'effectivement, ben, ça permet d'être parfaitement serein. Qu'on achète de manière régulière, ben, ça c'est encore plus intéressant, puisque chaque baisse sont des opportunités de rentrer à des cours plus bas. Et donc, c'est vraiment intéressant comme effet boule de neige qu'on va pouvoir avoir sur le portefeuille. Et si on investit en une fois, on sait qu'on a une stratégie à long terme et donc on ne sera pas inquiet lors des fluctuations de marché.
C'est ça. Younes, pour terminer, quels sont les quatre grands principes à ne jamais oublier ?
Mais alors, déjà, premièrement, c'est vrai que c'est bien toujours de conclure sur des principes clairs, parce qu'on parle de plein de choses de la vie, mais si on peut retenir quatre grands principes, quatre axes, déjà, normalement, il faut investir de plus en plus, mais uniquement l'argent dont on n'a pas besoin à court terme. Deuxièmement, c'est qu'il faut être régulier. Si je dis investir de plus en plus, ça veut dire qu'il faut une certaine régularité dans l'investissement. Établir un plan d'investissement détaillé sur 12 mois jusqu'à 36 mois. Voilà, au plus on est détaillé, au mieux c'est.
Et s'y tenir.
Ensuite, réinvestir les gains. Vous avez compris, mais pour profiter de cet effet boule de neige et donc de l'intérêt composé et du résultat que ça pourrait engranger à la fin. Et enfin, comme j'avais commencé au début, ben, ASAP. Commencer aussitôt que possible, le plus tôt, le mieux. Voilà, ça, c'est vraiment les quatre grands conseils que j'ai à donner pour, on va dire, clôturer un peu ou un peu donner un peu de clarté dans ce débat.
Je retiens surtout que même avec des petits montants, il est facilement possible de faire grandir son patrimoine de façon réfléchie, balancée, et qu'il faut commencer le plus tôt que possible. Donc, je incite tout le monde à commencer demain.
Voilà.
Merci beaucoup à vous deux.
Merci, Céline.
Aujourd'hui, nous avons appris qu'un petit budget n'est pas une contrainte, mais un début. Et ceux qui planifient judicieusement acquièrent une véritable puissance financière au fil du temps. Dans notre prochain épisode, nous aborderons les différents facteurs qui peuvent influencer vos investissements. Merci pour aujourd'hui de nous avoir écoutés. Vous voulez inciter d'autres personnes à devenir plus avisées en matière d'argent ? Ah, n'hésitez pas à partager ce podcast. Toutes les informations relatives à tous nos podcasts sont également disponibles sur notre site web.